Ouais, je connais la Bible, hein, mais j'ai pas lu beaucoup, non.
Je l'ai chez moi, j'ai lu des passages. Maintenant, c'est tellement grand que je l'ai jamais lu en entier. Hein.
Ouais. Et de qui parle ce livre, en général?
La Bible parle de Dieu, puis de Jésus, de Saint-Esprit, des choses que je crois plus.
Non, non.
Qu'est-ce qui fait que c'est pas quelque chose qui t'intéresse?
Je sais pas, j'ai jamais trop été... J'ai pas grandi dans une famille religieuse du tout, fait que... C'est quand même intéressant, on est de tradition judo-chrétienne, mais pour l'instant, non.
Quelles sont les valeurs, justement, les traditions que...
C'est pas dans les films américains, genre, c'est tout le temps les mêmes affaires qui se passent, genre, tout le temps le bon, le mal, genre, puis tout, mais c'est... Je pense que ça peut être intéressant de lire, c'est quand même à la base de beaucoup de choses dans notre société, mais... C'est ça, j'ai jamais pris le temps de l'ouvrir.
Ouais, c'est ça.
Nous souhaitons la bienvenue à la deuxième partie de notre série du mois d'octobre et du mois de novembre intitulée « Le Dieu que vous ne connaissez pas ». Je trouve ça savoureux, le jeune homme qui dit, elle lui pose la question, est-ce que tu connais la Bible? Oui, je la connais, je ne l'ai pas lue, mais je la connais. Il doit y avoir quelque chose là-dedans, mais je n'ai pas pris le temps. Alors, ce matin et à tous les matins, pendant tous les dimanches, pendant le mois d'octobre et novembre, nous prenons le temps ensemble de découvrir le Dieu que tant de Québécois, Québécoises ne connaissent pas. On a comme verset de départ un texte dans la Bible, lorsque Paul était dans une ville pluraliste, multiculturelle, multireligieuse, la ville d'Athènes à son époque. Il s'est tenu debout au milieu de l'Areopage, nous dit les Actes des Apôtres, et il a adressé les Athéniens, « Hommes Athéniens, vous avez un historique profondément religieux, comme notre nation ici au Québec, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription « Au Dieu que nous ne connaissons pas ». Que nous ne pouvons pas connaître. Les Athéniens est arrivé à un endroit, la majorité d'entre eux, on ne connaît pas et on peut pas le connaître. Et Paul vient leur dire, ce que vous révérez, celui que vous révérez sans le connaître, c'est lui que je viens vous annoncer. Alors, on vous souhaite la bienvenue et on encourage tout le monde de Nouvelle Vie d'inviter des amis, d'inviter des gens. Et ça a commencé la semaine dernière. Et on a déjà eu, j'ai eu plusieurs témoignages encourageants pendant toute la semaine de gens qui avaient invité des gens et dont un courriel que j'ai reçu cette semaine. Que je vais vous lire et qui, avec la permission bien sûr des personnes, toutes les personnes impliquées. Cher Pasteur Claude, je vous écris un petit mot d'encouragement pour la série « Le Dieu que vous ne connaissez pas ». Lorsque j'ai vu les annonces, j'ai pensé à un collègue de travail. Je suis planificateur financier depuis une vingtaine d'années. Ce jeune collègue est dynamique, performant et vraiment brillant. J'ai été son formateur lorsqu'il est arrivé il y a 2 ans. Il est titulaire d'une maîtrise en finance et il est une étoile montante de notre entreprise. Il a tout. Du succès, la carrière, les voyages, les passions. Il est un maniaque de sport, de vélo. Mais il est très critique. Il était très critique de tout ce qui est religieux. Ça nous faisait des échanges musclés, surtout, là, c'est lui qui dit ça, surtout sur les religieux américains qui appuient Trump. Dites à la personne près de vous, on parlera pas de ça ce matin. Dites à la personne près de vous. Il est venu avec sa copine et leur enfant au spectacle de Noël 2018. Il va commencer sporadiquement. Il a été impressionné, je crois, touché. Il a pris des billets avec nous pour le super bénéfice d'Action Nouvelle Vie, l'organisme communautaire. Et là encore, il était très touché par l'action communautaire et humanitaire. J'ai eu à cœur de l'inviter et, timing de Dieu, il m'a répondu tout de suite et m'a dit, ça tombe bien, j'héberge mon jeune frère de 18 ans ces temps-ci. Il a des problèmes de consommation, je vais l'amener avec nous. Ça peut être bon pour lui. À la fin de votre message, dimanche passé, lui, sa copine et son frère pleuraient. Je les ai amenés au salon, invités au salon bienvenue. Ils ont accepté. La personne qui les a accueillis, leur a répondu, était géniale. Mon ami m'a dit, c'est comme si c'était le pasteur qui parlait juste pour nous. Il répondait à des questions que j'ai discutées avec ma copine cette semaine. C'est malade. Dites à la personne près de vous, c'est malade. Dites ça à quelqu'un près de vous. Dites-le avec feeling. Il est en voyage de travail, son collègue, et il va venir pour le message de Dr. Reader sur le Dieu de Créateur, la science et la foi. Son jeune frère est encore plus touché. Il a passé la semaine sur votre site Internet. Il va venir lui aussi. Lâchez pas, nous dit ce monsieur. On est tellement fiers. Il était ici à la première réunion. On est tellement fiers de notre Église et comment le plus beau message du monde est présenté. Mon épouse et moi sommes des chrétiens de longue date, mais on est tellement boostés depuis dimanche passé. Merci pour la série « Le Dieu que vous ne connaissez pas ». Vous étudiez, vous vous préparez et nous, on invite chacun sa job. Alors, il a bien décrit toute la dynamique. Alors, à chaque semaine, nous allons découvrir ensemble le Dieu que vous ne connaissez pas, le Dieu qui est révélé en Christ, le Dieu que l'on peut connaître, le Dieu qui nous permet de changer, un Dieu qui console les cœurs, un Dieu qui est capable de nous aider à conquérir nos pires peurs, un Dieu qui combat l'injustice, un Dieu qui est créateur. Et je veux à l'avance vous inviter à encercler dans votre calendrier, non pas dimanche prochain, le 20, mais le 27 dimanche prochain, on va avoir Dominique Yeo, le pasteur de l'église de plus de 8000 personnes à Singapour, qui va être ici le dimanche matin dans nos réunions. Mais dimanche, le 27, le docteur Stéphanie Rieder Poirier, qui est une scientifique qui, avec son doctorat en biochimie, qui a gagné des prix de l'ordre du gouverneur général du Canada pour ses travaux en recherche il y a plusieurs années, et qui a écrit un livre, c'est une croyante, et elle a écrit un livre intitulé « Est-il possible? » qui est un livre fascinant sur la foi, et sur la foi, la science et la foi. Est-ce qu'on peut, est-il possible de que les deux puissent s'amalgamer? Et pour vous qui allez inviter quelqu'un, si vous invitez quelqu'un ce dimanche, le 27, qui est là pour la première fois, vous allez aller à l'espace, à bienvenue avec eux, et on va leur offrir gratuitement l'ouvrage du docteur Rieder, qui est un livre fascinant, parce qu'on veut que chacun puisse, alors inviter les amis du cégep, de l'université, des gens, des sceptiques, invitez-les, ils vont entendre quelque chose de fascinant ce matin-là. L'apôtre Paul, lorsqu'il était à Athènes, a dit, ce Dieu que vous ne connaissez pas, je m'en viens vous le présenter, et ce Dieu, il est révélé en Christ. Dans le même chapitre, il dira, j'ai expliqué et établi que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts en Jésus que je vous annonce, c'est lui. C'est lui qui est le Christ, le Dieu que vous ne connaissez pas. Jésus a dit lui-même, si tu veux connaître Dieu, moi, mes paroles, si tu veux voir le Père, ceux qui m'ont vu ont vu le Père. Mes paroles me viennent du Père, tout mon message vient du Père. Dieu le Père a dit de Jésus, voici mon Fils en lequel je prends plaisir, écoutez-le. Je veux vous dire ce matin que le Dieu que tu ne connais pas n'est pas révélé par la religion. Il n'est pas révélé même par l'historique de génération en génération qui a été extrêmement limité dans cette province de qui est Dieu. Il n'est pas révélé, il n'est pas pareil. Le Dieu révélé en Jésus-Christ n'est pas pareil que toutes les autres religions. Vous allez entendre ça souvent, c'est tout pareil. Non, si tu prends quelques minutes simplement pour lire la parole de Dieu, la révélation de Jésus est absolument transcende toute autre religion. Il n'est pas révélé par, il sera pas révélé par ton prof au secondaire ou au cégep ou à l'université seulement. Il ne sera pas révélé par des artistes ou les médias. Il va être révélé par Jésus-Christ. Louis Pasteur avait raison lorsqu'il a dit un peu de connaissance t'éloigne de Dieu et beaucoup de connaissance te ramène à Dieu. De la même façon, un peu, comme notre jeune homme sur le Vox Pop était, comme les millions de Québécois, juste un peu de rumeurs religieuses des générations passées sur Dieu va t'éloigner de lui. Mais si tu te rapproches, si tu regardes à Jésus, tu veux savoir qui est le Dieu de la Bible, regarde à Jésus. Et ce matin, on va regarder ensemble une des caractéristiques les plus fondamentales et pourtant les plus ignorées. Lorsque des dizaines et dizaines de personnes avec qui on a fait des vox pop et au fil des années demandé « Décrivez-moi Dieu », il n'y a personne qui a répondu. Cette caractéristique qu'on va regarder ce matin qui est pourtant fondamentale, le Dieu de la Bible révélé en Jésus-Christ est un Dieu de compassion. Il y a une expression dans la Bible qui est extraordinaire, qui doit nous définir même comme chrétiens ce matin. Ce n'est pas un message seulement pour des nouveaux. Je vais parler aux croyants à l'église et je donne la permission à ceux qui sont nouveaux, invités, d'écouter, bien sûr. Mais l'expression qui définit le plus, on ne pourra pas toutes les regarder, mais page après page des évangiles, il y a une expression qui définit le plus Jésus, c'est qu'il était ému de compassion. Dans toutes sortes de textes, comme dans l'évangile de Matthieu, chapitre 15, s'approcha de lui une grande foule, mais il y avait des boiteux, des aveugles, des muets, des gens avec toutes sortes de carences, de handicaps et d'enjeux, et beaucoup d'autres malades, des gens qui souffraient. Et on les mit à ses pieds, et il les guérit. La foule était dans l'admiration de ça, mais Jésus va parler à ses disciples. Il parle aux croyants comme il nous parle encore ce matin. Et au verset 32 de l'évangile de Matthieu, chapitre 15, Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, « Je suis ému de compassion pour cette foule. » De peur que les forces leur manquent en chemin. Il est le Dieu ému de compassion. Il est le Dieu qui est préoccupé, qui a une compassion, qui a une passion pour les êtres humains, pour ceux pour qui le chemin est long, pour ceux le chemin dit, ils vont manquer la préoccupation de Dieu pour ceux qui manquent de force sur le chemin de la vie. Manque de force parce que, et c'est à tous les âges, hein. Ça peut être un garçon, il y a des centaines et centaines d'ados et de jeunes qui sont... Ça peut être un garçon qui est, ou une fille qui est victime de taxage ou d'intimidation à l'école, en personne ou en ligne. Ça peut être un ado qui a toutes sortes de... dont les parents vivent un divorce et que lui traverse une saison difficile. Le chemin est long. Le chemin est difficile. C'est un étudiant au cégep ou à l'université qui vient d'avoir un revers. C'est quelqu'un qui a une perte d'emploi. C'est quelqu'un qui vit un divorce. C'est quelqu'un qui est assis ici ce matin et qui est rongé par l'inquiétude pour son fils ou pour sa fille ou pour ses petits-enfants. Le chemin est long et difficile. Et ce message-là d'un Dieu qui est pas loin, qui est pas étranger, qui est pas éthérique, froid, impersonnel ou indifférent, mais qui est ému de compassion. Je vais l'expliquer dans un instant. Pour le chemin de la vie, qui est long, qui veut donner force à ceux qui en manquent. Il n'est pas seulement pour les nouveaux, comme j'ai mentionné. Il est pour nous, les disciples. Parce qu'il y a une tragédie, il y a un drame, il y a quelque chose de grave. Lorsque nous perdons, lorsque l'Église chrétienne perd la réalité spirituelle du Dieu qui est amour et compassion, révélé en Jésus-Christ, il y a des gens qui sont marqués, il y a des gens qui s'éloignent de Dieu, même sur plusieurs générations. Dans les premières années de notre église, ici, dans la ville de Longueuil, on a maintenant plusieurs campus, mais ça, ici même, à Nouvelle-Vie, à Longueuil, il y avait un leader, un homme politique qui était très, très important pour nous dans la ville et dans notre région, que je ne nommerai pas. Et lorsqu'on est arrivé, on a commencé à écrire, on aimerait vous inviter, faire visiter l'église, on en faisait plein d'événements humanitaires. Et dans les premières années, il était tellement, tellement loin. C'est comme s'il y avait une aversion pour les choses chrétiennes. Et quelquefois est venu, lorsqu'on... Il y a eu la crise du verglas. Nous sommes devenus un centre d'hébergement. Des centaines de familles pendant une semaine qui étaient là. Alors, il est venu, mais lorsqu'il venait, même, j'avais le goût, il y a des fois, je n'aurais jamais fait ça, ça aurait été manqué de respect. Puis j'avais le goût de le prendre dans mes bras et de dire, tout va être correct, là, respirer. Il avait l'air tellement frigorifié, il avait l'air tellement mal à l'aise lorsqu'il était avec nous. Et quelques semaines ou mois après la crise du verglas, sa chef de cabinet nous a contactés et a dit, il aimerait rencontrer le pasteur, dîner avec vous. Alors, j'ai accepté le lunch et lorsque je suis arrivé là-bas, sa chef de cabinet était un personnage, elle avait plus que 25 ans avec lui, c'est une femme forte, une femme dynamique. Et lorsqu'on est arrivé au restaurant, elle a dit, oh, je sais, pasteur, que vous êtes surpris de me voir ici, là, mais il ne voulait pas vous rencontrer tout seul. Alors, déjà, c'était un bon départ. Il avait l'air super nerveux, il était assis, bonjour, bonjour. Et là, pendant à peu près 20 minutes, on a parlé de tout et de rien, la pluie du beau temps, et c'est elle, encore une fois, avec un beau dynamisme, c'est elle, encore une fois, qui a interrompu l'affaire, puis elle a dit, ben là, écoute, là, elle l'a nommé par son prénom, elle dit, écoute, là, on perd tout notre temps, là, on n'est pas ici pour parler de... Dis-y au pasteur qu'est-ce que tu veux lui dire. Alors, moi, j'ai mangé ma soupe et j'attendais qu'est-ce qui s'en venait. Et comme ça, ça a pris... Et tout à coup, il a vidé sur la table, ce monsieur-là, qui est un homme politique, qui était de grande influence ici, sur la Rive-Sud, et qui m'expliquait qu'il venait d'une famille, une famille très, très pauvre. Et lorsque sa mère a eu son premier enfant, elle a eu une grossesse extrêmement difficile. On recule plusieurs années en arrière. Et s'est retrouvé, lors de l'accouchement, presque à mourir lors de l'accouchement, et à faire un post-mortem qui l'a non seulement amené dans une dépression, mais qui a commencé à enclencher pour elle des problèmes, des enjeux de santé mentale. C'était extrêmement difficile. Et les médecins ont dit, vous ne pouvez pas avoir d'autres enfants, c'est votre vie qui est en danger. Et à cette époque-là, si vous pouvez l'imaginer, les plus vieux le comprennent, mais à cette époque-là, le curé de la ville, ici à Longueuil, de la paroisse, est allé à elle et a dit, tu n'as pas le droit d'empêcher la famille, tu vas avoir des enfants. Et elle a eu 9 enfants. Et à partir de pauvreté abjecte, le papa était alcoolique et violent. Et lorsque, à partir du deuxième ou troisième enfant, elle a sombré dans la schizophrénie. Elle était schizophrène, elle était internée, elle sortait. Et puis, il y avait cette pression religieuse, tu vas avoir des enfants, tu ne peux pas empêcher la famille, etc. Et lui, cet homme politique, a grandi comme adolescent là-dedans, en voyant sa mère, en voyant la folie, en voyant tout ce qui prenait place, en voyant cette pression religieuse pour apprendre, lorsqu'il avait 18 ans, dans les journaux, pour apprendre que ce prêtre-là était aussi un pédophile. Et là, il m'a dit, vous savez, et là, il y avait toute cette souffrance et cette colère. Puis il m'a dit, moi, pendant des années, j'haïssais ça, les églises, et puis je veux rien savoir de ça, puis j'ai élevé mes enfants loin de ça, puis j'en aurais jamais parlé, puis je veux pas parler de rien de tout ça. Puis là, il dit, son expression, il dit, là, vous mélangez, par exemple. Comment est-ce que vous êtes impliqué dans la Bible? Comment est-ce que vous êtes? Puis j'écoute, puis je regarde. Puis c'est, et j'ai jamais oublié cet homme-là parce qu'il représente, quelque chose. Il représente une des générations qui n'ont pas connu le Dieu de compassion. Lorsque le mot ému de compassion dans les Écritures, il décrit Dieu d'une manière extraordinaire. Jésus ému de compassion dans le grec, c'est splagisomé. C'est littéralement le splagisomé en deux notions de la compassion de Dieu et de chacun d'entre nous à laquelle il nous appelle. Splagi parle de l'intériorité, des sentiments, des motifs du cœur. Et zomé, c'est remuer, c'est être en mouvement, c'est des actions, c'est des mesures concrètes. Alors littéralement, c'est la pensée de Dieu qui dit « J'ai tellement mal à l'intérieur de vous voir souffrir qu'il faut que je fasse quelque chose. » Il faut que je bouge. La véritable compassion est l'action, la passion de Dieu. Et il y a dans notre province un historique des enfants de Duplessis par générationnel, de plusieurs deux, trois, quatre générations qui ont vécu toutes sortes d'abus, qui ont vécu aucune représentation, qui ont vécu une représentation qui a défiguré qui est Dieu pour eux. Et des enfants du Duplessis, encore récemment, il y a toutes sortes de choses qui émergent. Il y a un film qui va sortir au Québec maintenant, qui est sorti en 2018. Jean de Montréal l'a titré. Le film qui fait trembler l'Église traditionnelle. Toute la France, en 2018, parlait de ce film qui s'appelle Grâce à Dieu, qui parle des histoires vraies et des scandales qui ont pris place, qui ont été cachés de génération après génération, qui ont été abusés. Puis quelque chose qui a pris place, un traumatisme de toute une génération. Il y a un livre, je vais regarder ce traumatisme pendant juste une seconde, à la lumière d'un livre qui est fascinant. Il y a un livre qui a été écrit, qui s'appelle « Les familles qui ont la tête à l'envers, revivre après un traumatisme ». C'est de Robert Neuburger, qui est un psychiatre, psychothérapeute de famille. C'est un Français d'origine juive, directeur du Centre des études de la famille, association le CEFA. Et il explique les étapes provoquées dans une famille par un traumatisme. Et cette espèce de distancement au début, on n'en parle pas, le rejet, le refus, le déni, qui amène souvent à une révolte, à une dérive, à chercher un dispersement. Et lui dit, faut revenir, faut faire face, faut qu'il y ait une réalisation de d'où tout ça vient afin de ramener les familles, les ramener à l'endroit. Il y a un traumatisme religieux dans notre province. Vous avez remarqué dans le Vox Pop, regardez les deux générations. Il y a un monsieur qui est là qui dit, ouais, je connais ça de la Bible, ça parle de Dieu, puis ça parle de Jésus, du Saint-Esprit, puis je crois pas à ça. Et vous avez un jeune homme qui, lui, n'est pas agressif contre Dieu, n'est pas, il est le Dieu vengeur ou il est le Dieu de colère. Il a juste complètement éliminé Dieu de sa pensée. Regardez notre petit jeune homme, on avait tout plusieurs minutes avec lui. Il est brillant, il est articulé, mais il représente une génération. Regardez bien, juste 18 secondes. Regardez bien comment est-ce qu'il répond à certaines des questions de notre Vox Pop. On l'écoute ensemble.
Dieu, pour toi, c'est quelque chose qui t'intéresse, tu cherches?
Non. Non, je crois pas du tout.
Okay.
Ouais.
Est-ce que dans ton quotidien, ça t'arrive souvent de devoir en parler aux autres?
Non, je parle pas de ça vraiment.
Je pense pas à ça, je parle pas de ça. Les générations passées, en fait, ont été violentées, ont été traumatisées, et maintenant tu as deux ou trois générations que tout a été éliminé. Nous avons besoin de communiquer en toute simplicité la nature la plus essentielle de Dieu en Jésus-Christ, qui est le Dieu de compassion, de rappeler la motivation et comment Dieu manifeste la manifestation du Dieu de compassion. Lorsqu'on annonce la venue de Jésus dans les Écritures, dans l'Évangile de Luc, il y a ce texte magnifique qui dit « Grâce aux entrailles de la miséricorde de Dieu », c'est vraiment le cœur, l'intérieur du cœur de Dieu qui dit « Il faut, je vois la souffrance, je vois la solitude, je vois les limites humaines et qui ont besoin d'être réconciliés, besoin de cette force, de ce pardon, de cette grâce. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, ça c'est Christ qui vient, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas vers des chemins de paix. » Le premier splagisomé intérieur qui provoque une action vient du cœur de Dieu lui-même pour éclairer, tellement actuel, éclairer en 2019 des hommes, des femmes partout qui sont dans la vallée, qui sont à l'ombre, mettre une lumière pour ceux qui sont à l'ombre, la vallée de l'ombre de la mort, rediriger leurs pas vers la paix. Savez-vous qu'à tous les jours, entre hier matin et ce matin, on a fait notre week-end, vous avez fait vos emplettes hier, venez à l'église ce matin, on va avoir de l'action grâce après-midi, une journée de congé demain. Savez-vous qu'à tous les 24 heures au Québec, il y a 80 personnes qui font une tentative de suicide? Savez-vous qu'il y a une personne sur quatre dans le prochain 25 ans qui va souffrir de troubles émotionnels, psychologiques, qui va souffrir d'enjeux de santé mentale, de dépression, de burn-out, de crise, de panique? Il y a toute une génération qui a besoin de savoir qu'il est le Dieu de compassion, et que ce Dieu de compassion qui apaise, qui aide des êtres humains à trouver le chemin de la paix, une personne à la fois. Si vous êtes ici aujourd'hui et vous avez un témoignage que vous avez trouvé un chemin de paix en Jésus-Christ que vous ne connaissiez pas, voulez-vous juste le signifier pour encourager quelqu'un ce matin? La motivation du cœur de Dieu, mais comment est-ce qu'il se manifeste? Il se manifeste, et là je parle aux croyants, il se manifeste à travers nous. Il se manifeste à travers son peuple, à travers les chrétiens, à travers ceux qui sont comme Christ. Savez-vous d'où la première fois on a entendu a été mentionné les disciples, ceux qui ont vu Jésus à la résurrection ont été appelés chrétiens. Ils ont été appelés chrétiens. Ce fut pour la première fois à Antioche qu'ils furent appelés chrétiens. Ils ont été appelés chrétiens à la première fois lorsqu'ils ont manifesté un pardon envers celui qui leur avait fait tant de mal, lorsqu'ils étaient ouvert leurs bras inclusifs et ont abattu des générations de discrimination. Ils sont devenus un et manifestés cette compassion. Les gens disent ils sont comme Christ, ils sont des chrétiens. Et c'est important pour nous de savoir, de se rappeler que la véritable compassion, ce n'est jamais juste des émotions sans engagement. Ce n'est jamais juste de ressentir. Ce n'est pas de la pitié, c'est une passion. Ce n'est pas des vœux pieux sans véritable participation personnelle. Ce n'est jamais une attente conditionnelle sans action concrète. C'est toujours dans le maintenant. L'apôtre Paul écrira aux Corinthiens, et comme j'ai fait ce matin, recueillant une offrande pour des gens qui étaient dans la famine, et il dit les bonnes intentions, la bonne volonté, lorsqu'elle est réelle, se manifeste non pas avec ce que vous avez demain, ce que j'aurai, mais avec ce que vous avez dans vos mains maintenant, aujourd'hui. Donnez donc la preuve de votre amour. Et chaque personne qui entre véritablement de la mort à la vie, en contact, en relation personnelle avec Jésus, vit une transformation de cœur où l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur et les bras de compassion s'ouvrent. L'apôtre Jean était, avant d'être l'apôtre Jean, lui et son frère, leur surnom dans la Bible, étaient les fils du tonnerre. Ils étaient des intégristes religieux que lorsqu'ils marchent avec Jésus dans le début, puis un village qui les refuse, qui les méprise, qui n'écoute pas leur message, et il appelle littéralement à l'élimination de ceux qui ne veulent pas adorer Dieu comme nous, mais en contact avec Jésus, le cœur de Dieu qui leur est communiqué, le message et la motivation divine qui se manifeste en eux et à travers eux. Jean devient l'apôtre de l'amour, puis il écrit des versets comme 1 Jean 3 où il dira « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. » Pas parce qu'on vient à l'église, parce qu'on a appris des versets et qu'on est religieux. « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons. » Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Nous avons connu l'amour et en ce qu'il a donné sa vie pour nous, nous aussi, nous devons donner notre vie pour les autres. Jésus dit, c'est l'amour, c'est la générosité, c'est l'inclusion, c'est le non-jugement, c'est le pardon, c'est l'engagement de générosité qui va, c'est la défense de l'orphelin, c'est la défense des gens qu'on abuse qui va devenir la caractéristique numéro un. C'est comme ça que tu sais que quelqu'un est passé de la mort à la vie. Vous devriez dire amen, vous êtes trop silencieux. Littéralement, Jean dit, c'est jamais en parole non plus, c'est jamais en parole seulement, c'est jamais juste du babillage. Si quelqu'un possède les biens de ce monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeura-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole seulement, mais en action et en vérité. Ce n'est pas toutes les religions qui sont pareilles. Lorsque l'Église chrétienne, au fil des siècles, a été engagée politiquement, a été engagée dans des massacres, a été engagée dans des croisades, a été engagée dans toutes sortes de choses qui dominaient, instrumentalisaient et contrôlaient les gens. Elle était contraire au cœur de Dieu. Lorsque vous avez des religions, que ce soit au nom de l'islam radical, avec le djihad, avec la charia, avec les infidèles qu'il faut ou convertir ou éliminer, il y a rien dans cela qui ressemble au christianisme. C'est pas toutes les religions qui sont pareilles. Lorsque j'ai visité les Indes ou que j'ai visité le Bangladesh et que tu vois l'hindouisme avec la loi du karma, avec la pensée de ce qui arrive à quelqu'un, touche pas, interfère pas avec son karma, c'est le résultat d'une vie passée. C'est pour ça que vous avez aux Indes des centaines de milliers, si ce n'est des millions d'enfants esclaves, de jeunes filles données en prostitution, parce que moi, j'ai pas à me mêler de son karma. La parole de Dieu à présente le Dieu que tu ne connais pas. Il est entièrement différent. Il est le Dieu qui tend ses bras, qui est ému de compassion, et nous manifestons qui il est les uns envers les autres. Manifestons qui il est les uns envers les autres. J'ai souri. Un de nos pasteurs cette semaine nous racontait que c'est un jeune pasteur qui dans notre équipe, et il vient de déménager dans une nouvelle ville de la Rive-Sud, et puis s'est présenté à ses voisins. Jeune pasteur dans la trentaine et jeune couple à côté de chez eux, à peu près du même âge, des enfants du même âge. Ils se mettent à parler ensemble et ça clique. Ils ont un bon temps jusqu'au moment où est-ce qu'à un moment donné, ils sont ensemble les deux couples, je sais pas si c'est son patio ou whatever, et les voisins leur disent: « Puis toi, tu me l'as pas dit, là, qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi? » Alors, notre ami pasteur dit: « Ben, moi, je suis pasteur. » Et là, l'autre est juste comme, c'est un vrai Québécois, il est comme: « Wow! Là, j'aurais jamais pensé... » Il a dit: « J'aurais jamais pensé ça de toi. J'aurais jamais pensé ça de toi. » Il a presque dit: « T'avais l'air tellement normal. » Comprenez-vous ce que je veux dire? Et on au fil des semaines, parlait de temps en temps, mais il y a comme pas de point de connexion. C'est comme: wow, moi, mes parents, on était pas là-dedans, mes grands-parents ont lâché ça. Et là, elle a sorti les abus de l'Église, etc., etc. Mais il nous racontait cette semaine qu'il y a quelques semaines, la voisine est venue cogner à la porte pour le raconter. Elle s'est réveillée à 2h du matin, une jeune femme qui a toutes sortes de questionnements. Elle s'est réveillée à 2h du matin, elle se posait des questions sur le sens de la vie, sur l'après-vie, sur Dieu, les doutes, plein de doutes. Alors, elle a fait ce que des milléniaux font. Elle a dit: « Je vais aller demander des conseils, je vais aller chercher de l'information sur Google. » C'est là qu'on va pour avoir toutes nos sources aujourd'hui. Elle est allée sur Google parce qu'elle s'est mise à googler questions, doutes, Dieu existe-t-il, etc., etc. Et vous savez que nos messages sont en ligne. Alors, de toutes les milliers de messages en ligne, elle s'est mise à taper, peut-être à cause de géographiquement où elle est, mais dans une connexion divine, elle s'est mise à taper Google. Et le premier lien qu'elle voit, c'est un message sur Dieu. Ben, elle dit: « Faut que je prenne mes lunettes. » Ben, c'est mon voisin, ça! Un message de lui, du voisin, et son titre était: « Où est Dieu quand je doute? » Oui. Une des choses qui m'a marqué, c'est qu'elle a dit, elle lui racontait ça, elle a dit quelques semaines après: « Si mon église, si l'église de mes parents avait été comme ça, je l'aurais sans doute pas quitté. » J'aimerais dire à quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui, la motivation de Dieu et la manifestation de Dieu, elle n'est pas dans la condamnation et le jugement ou quelque forme de domination. Elle est dans les bras ouverts de Dieu, ému de compassion pour les besoins de chaque être humain. C'est ça que nous allons manifester. C'est important de connaître sa motivation et la manifestation de sa compassion et le message du Dieu de compassion révélé en Christ. Son message, c'est qu'il a compassion de ceux que l'on dénigre et qui sont victimes de discrimination systémique. Discrimination systémique dans l'actualité récemment. Mais Marc, dans l'évangile de Marc, il y a 2000 ans, au tout début de son ministère, il y a un lépreux qui est venu à Jésus, versets 40 et 41 de l'évangile de Marc, le premier chapitre. Et se jetant à genoux, le lépreux lui dit d'un ton suppliant: « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Mais Jésus, splat Jésus, mais ému de compassion envers lui, étendit la main et le toucha et dit: « Je le veux, sois pur. » Lorsque vous lisez un texte comme ça, vous étendit la main et le toucha, on peut le lire en bâillant puis passer au prochain verset. Croyez-moi, lorsque Jésus étendit sa main et qu'a physiquement touché le lépreux, la foule au complet a fait: « Il a touché! » Parce que la lèpre, à ce moment-là, moi, j'étais dans des colonies où il y a encore des lépreux au 21e siècle sur le continent africain et ailleurs. Mais il y a 2000 ans, la lèpre n'était pas seulement une maladie physique. Elle avait une connotation sociale, familiale, spirituelle. En effet, tous les historiens nous disent comment les personnes qui, la minute qu'il y avait un point qui apparaissait, que la lèpre, parce que ça se fait, le point apparaissait, ça se fait pendant des années, c'était quelque chose qui grugeait le corps pendant des années. La personne était officiellement sortie, arrachée à sa famille. C'était une mère, un père, des enfants. Arrachée à sa famille, sortie en dehors de la ville, vivait à l'extérieur, dans des villes de refuge. Tous les historiens s'entendent, ceux qui ont mis la connotation de jugement, de honte sur les personnes, étaient les religieux qui disaient: ce sont des impurs. Et il y avait une connotation d'un être humain qui non seulement sa santé qui est en train de disparaître, mais un être humain qui pouvait passer, ça pouvait prendre 5, 10, 15, 20 ans, la maladie, avant de suivre son cours jusqu'à la fin. Et cette personne-là, imaginez un être humain qui, pendant toutes ces années, ne connaîtra pas la touche humaine, ne connaîtra pas aucun contact. Et il vient, il y a dans le cœur de Jésus, il est ému de compassion pour ceux qui ont été victimes de discrimination. C'est pourquoi Jésus vient renverser toute dérive, vient renverser toute discrimination. Le message chrétien renverse toute forme de discrimination raciale, sociale, religieuse, éthique, ethnique ou culturelle. Si vous lisez la Bible de couvert à l'autre, savez-vous quelles sont les quatre grandes passions et priorités de Dieu qui sont devenues les nôtres? Les quatre grandes passions de Dieu, le démuni, le big four de Dieu, le démuni, la veuve, l'orphelin et l'immigrant. Quatre grands courants de personnes qui sont toujours contre lesquelles on discrimine. Mais la pensée de Dieu, la pensée du Jésus ému de compassion, c'est que, et ceux d'entre nous qui voulons manifester qui il est, c'est que quelle que soit la couleur de ta peau ou l'endroit d'où tu viens dans le monde, où tu es et ce que tu as vécu, il y a aucune discrimination possible. Chacun est égal en préciosité, en valeur et en importance devant le Jésus de compassion. Son message, c'est qu'il a compassion de ceux que l'on dénigre et qui sont victimes de discrimination systémique. Il a compassion de ceux qui sont délaissés parce qu'ils sont différents ou qu'ils dérangent par leur différence. Les gens qui parlent, pour toutes sortes de raisons, sont dérangent dans la société, ne sont pas dans le courant, ont quelque chose qui fait en sorte qu'il faudrait juste les voir disparaître. Plusieurs endroits où Jésus est ému de compassion, puis on va lire dans plusieurs endroits qu'il est ému de compassion pour ceux, pour des foules qui semblaient dérangées. Vous avez un exemple dans l'Évangile de Marc au 6e chapitre, alors que le verset 30 et 31, les disciples s'étaient rassemblés auprès de Jésus et lui racontaient tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Dans le chapitre précédent, ils les envoient faire leur ministère, ils vont prêcher, et lorsqu'ils reviennent auprès de Jésus, ils sont occupés, mais ils sont en pleine discussion. Ils racontent à Jésus tout ce qu'ils ont fait et tout ce qu'ils ont enseigné. C'est un portrait de certains segments de l'Église chrétienne moderne qui passent son temps simplement à discuter, à apprendre plus. La doctrine, on est fermé sur nous-mêmes, on est dans une espèce de bunker avec aucun contact avec l'extérieur. Et Jésus les prend, et la Bible, vous lirez dans l'évangile de Marc, et trois des évangélistes racontent cette anecdote. Ils s'en vont sur un lac ensemble. J'ai été sur ce lac dans mes visites en Israël. Et ils s'en vont sur le lac ensemble. Ils sont là, et il y a une foule qui criait après eux. Il y avait tellement d'haleine de venant qu'il n'y avait même pas le temps de manger. Une foule qui demande, une foule qui dérange, une foule avec des besoins, une foule de gens qui ont tellement besoin de lui. Et ils s'éloignent sur le lac pour un moment de quiétude. Et la Bible nous dit, le texte dit, que beaucoup des gens les virent, de toutes les villes accoururent et les devança au lieu où ils se rendaient. Qu'alors qu'ils s'en vont dans la tranquillité du lac, lorsqu'il arrive de l'autre côté, la foule a fait le tour et est venue les rejoindre. Non, vous avez pas l'air de catcher du tout. Vous avez vraiment pas l'air là. Alors, on va le faire ce matin. À la première réunion, je veux dire en partant, à la première réunion, le groupe de gauche était vraiment endormi, mais il est à 9h. Alors là, je sais que vous allez être dynamique. Je veux que vous jouiez. Il y a 1000 personnes ici qui vont devenir les acteurs. Je veux que vous jouiez une foule. Imaginez une foule qui crie, Seigneur, Jésus, guéris-moi, sauve-moi, console-moi, nourris-moi, aide-moi. Je veux que vous soyez la foule qui crie après le Seigneur. Et là, le bateau qui va s'éloigner, ça va être magnifique. Je sens une performance impressionnante de cette foule de ce côté-là. Alors la Bible nous dit que la foule était, et la foule s'est mise à crier, Seigneur, Seigneur, go, 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 go. Parfait, bien meilleur que la première réunion. Et alors que le son de la foule s'estompe, les disciples sont dans la barque, et ça, c'est un portrait de l'Église chrétienne évangélique moderne. Oh, qu'on est bien avec Jésus. Dans sa présence, on se fait du bien. On est ensemble, un peu comme sur le monde de la transfiguration. Pierre a probablement dit, il est bon que nous soyons ici, on met l'ancre. On reste si loin des fatigants, des dérangeants, des différents. On est tellement bien, oh, tellement bien entre nous ici. Mais au moment de la transfiguration, il devait descendre parce que de l'autre côté, il y avait un homme démonisé qui avait besoin d'être libéré. Et lorsqu'ils s'en vont, ils traversent, on est, oh, la foule est derrière nous, on les entend plus. Et lorsqu'il arrive de l'autre côté, la foule avait fait le tour. Et la foule était là, puis ça c'est vous. Mais Ce matin, la deuxième catégorie a clenché la première d'une manière assez spectaculaire et j'ai confiance en vous. La foule était là. « Hey Seigneur, c'est nous autres, allez-y! » Quelle foule! J'aimerais que ce côté-là applaudisse ce côté-là qui a été vraiment formidable. Et les réactions sont hallucinantes parce qu'elles sont les mêmes 2000 ans plus tard. Les disciples dirent à Jésus, « Renvoie-les! » Renvoie-les, ils dérangent, ils sont différents, ils sont pas comme nous, ils connaissent pas nos chansons, ils connaissent pas nos versets. Ils sont pas habillés de la bonne façon, pas la bonne couleur de cheveux, pas les bons anneaux aux bonnes places. Je vais en laisser se rendre jusqu'en arrière, celle-là, parce que... Ça, c'est un bonus, c'était pas la première réunion, c'est l'inspiration du moment. Mais Jésus, ému de compassion. Parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Après une analogie qu'eux comprenaient, qui ne veut pas dire beaucoup pour nous aujourd'hui, mais ils étaient comme des brebis dont personne ne s'occupe, dont personne n'est préoccupé. Et encore aujourd'hui, il est celui qui ouvre ses bras et qui est préoccupé pour ceux qui dérangent et pour qui personne ne se dérange plus. Il est préoccupé lorsque mille femmes prostituées autochtones se font assassiner sur une période de 10 ans, puis il n'y a même pas personne qui fait une enquête. Je ne fais pas de politique ce matin, mais il est préoccupé par une nation qui dit on a de l'argent pour acheter un pipeline à 4 milliards, mais on n'a pas d'argent pour mettre de l'eau dans un village au Québec en 2019 et 2020. Il n'y a pas de politique. Il est préoccupé par celui qui est devenu sans-abri. Il est préoccupé par les personnes dans les CHSLD avec un bain par semaine. Il est préoccupé par les itinérants. Il est préoccupé par ces jeunes qui vivent avec toutes sortes d'enjeux de santé mentale, de délinquance. Il est préoccupé par le fugueur. Et la compassion et passion pour le révolté, pour celui qui est délinquant, pour celui qui a des carences, pour le jeune de la rue à 18 ans qui est bipolaire ou qui est TPL. Il est préoccupé. Parce que lui qu'on dit, lui a des troubles de comportement, il a des troubles d'opposition. Lui, il est dérangeant, il est préoccupé par celui qui est trisomique, il est préoccupé par toi et par moi. Et il tend ses bras et nous sommes l'Église qui ouvre ses bras et qui dit, chacun d'entre eux est précieux pour lui. Il a compassion, il est ému de compassion de nos douleurs et des dépendances qui peuvent nous détruire. Tout ce qui est souffrance l'attire et il en est préoccupé. Matthieu 14, quand il vit une grande foule, il fut ému de compassion pour elle et guérissait de toutes leurs douleurs, toutes leurs souffrances, qu'elles soient physiques, qu'elles soient psychologiques, qu'elles soient humaines, qu'elles soient sociales, qu'elles soient relationnelles. Il est préoccupé, il a compassion de ceux qui crient leurs douleurs, bien qu'ils ne le voient pas encore. Dans l'Évangile de Matthieu, vous avez ce moment dans l'Évangile de Matthieu au 20e chapitre où il y a des aveugles qui sont sur le bord du chemin. Ils ne le voient pas encore, mais ils crient leur douleur et la foule veut les faire taire. L'Église chrétienne au 21e siècle, dans cette province et dans le monde, doit être investie de ce cœur de compassion de Jésus qui dit, il y a des gens qui crient fort, ils crient leur douleur, ils dérangent, ont la révolté. Ils sont ceux qui ont les poings les plus serrés, ceux qui crient le plus fort sont ceux qui souffrent le plus intérieurement. Ma fille est travailleuse sociale et lorsqu'elle faisait un de ses stages, elle s'impliquait bénévolement à plusieurs endroits. Elle est allée à Montréal dans un centre qui est de souche chrétienne, qui fait un travail extraordinaire auprès des filles qui sortent des milieux de la prostitution de la rue, comme le 2159 que nous soutenons. Et elle était là un soir pour me raconter cette anecdote, qu'un soir, elle était là avec, il y avait une jeune femme qui était là, qui quelques mois auparavant était arrivée complètement désorganisée, violente, en crise, criait, une punk avec tout le look que vous pouvez imaginer, mais juste une boule de haine et de colère, elle frappait, elle faisait tout ce que... Lorsqu'elle commençait à expliquer ce qu'elle avait vécu, elle avait été violentée, elle avait été violée, elle avait été abusée, elle avait été abandonnée. Et là, dans les mois qui ont suivi, il y a juste un apaisement. Je vais les aider à trouver le chemin de la paix. Il y a un apaisement, la compassion. Est-ce que vous savez que l'amour et la compassion peuvent renverser les pires traumatismes, les pires peurs, les pires craintes, les pires chaînes? C'est pas une pensée magique! Mais cette jeune femme-là est devenue une intervenante dans le groupe. Et un soir, ils étaient tous ensemble. Puis ma fille disait, c'est incroyable de voir la transformation de cette fille-là. Et à un moment donné, pendant qu'ils étaient là, il y a une autre fille qui est arrivée de la rue, mais complètement en état de crise. Elle s'est mise à frapper partout des murs, cracher sur les gens. Elle criait. Il y a quelqu'un qui a dit, appelez la police. Qu'est-ce qu'on va... Elle était révoltée, était enragée. Et l'autre jeune fille, qui est toute nouvelle à la fois, toute nouvelle au Dieu qu'elle ne connaissait pas, toute nouvelle au Dieu de compassion, toute nouvelle au Jésus splagisomé, mais elle est arrivée à elle et tous les théologiens du monde peuvent la décrire, mais elle a dit d'une façon, et là, ouais, elle m'a pas un courriel parce que je disais un mauvais mot, vous en entendez des pires à chaque jour. Mais sur la, elle est arrivée à l'autre jeune fille, personne n'est capable de la calmer, puis elle dit, écoute-moi, là, écoute-moi. La vie, c'est une bitch, mais Dieu est bon. Pas de courriel, s'il vous plaît. Il a dit le mot. Ah! Pas de courriel, s'il vous plaît. Notre place dans la vie, notre place sur cette terre, notre rôle ensemble dans la manifestation de sa compassion dans cette ville et dans les nations, c'est d'étendre les bras et de dire à tous ceux pour qui la vie c'est une, que Dieu est bon, il est compassion, il est amour, puis il peut rebâtir des vies, vous devriez dire oui. Le message de Dieu de compassion, qui est la compassion de nos dépendances, même qui menace de nous détruire, et la compassion des personnes, de ceux qui se font du mal puis qui en font à d'autres parce qu'ils ont perdu le contrôle d'un aspect de leur vie où ils ont honte, se font honte et font honte à d'autres, se font du mal et le font à d'autres. Dans l'évangile de Marc, au 9e chapitre, il y a un père qui est venu pour son fils qui avait perdu le contrôle, qui était pris par des dépendances qui le menaçaient de le détruire. Jésus demanda au père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit le père. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Il est pris par une dépendance qui le menace, qui le jette dans ce qu'il détruit. Si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Esplagisomé pour nous. Si tu peux quelque chose. Et Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. J'aime ce père. J'aime sa transparence. J'aime à quel point je peux m'identifier à lui. Et aujourd'hui, je veux dire à quelqu'un qui a besoin d'entendre pour toi-même ou pour quelqu'un près de toi, il a compassion des dépendances dont les racines sont de longue date. Depuis combien de temps est-il comme ça? De l'enfance. J'ai parlé, moi, face à face avec des centaines, si ce n'est des milliers de personnes au fil des années, avec toutes sortes de dépendances. Et tu peux toujours aller à un moment dans l'enfance, à quelque chose. Il y a une raison pour laquelle il est là aujourd'hui. Il y a des racines qui sont là. L'Église s'appelle Nouvelle Vie, parce que quelle que soit la vie, quel que soit d'où tu viens, Dieu a une capacité, Jésus a une capacité de déraciner tout ça et de t'ouvrir un chemin nouveau. Encore une fois, si vous l'avez vécu, il faut vous encourager. Quelqu'un qui a besoin de l'entendre ce matin, c'est la vie, la mort. Et la compassion de ce qui nous domine, qui le jette dans le feu, dans l'eau, qui le domine. Il y a la compassion des dépendances, de la consommation d'alcool, de drogues dures, d'opiacés, de dépendances, de co-dépendances. Et la compassion malgré nos doutes. La compassion malgré nos doutes. James, tu viens ici ce matin, tu dis, j'entends plein d'affaires, mais... Je comprends même pas, je suis même pas certain. J'aime que le fait que ce père dit à Jésus, si tu peux faire quelque chose. Le lépreux dit, tu peux, mais est-ce que tu le veux? Lui, il dit, je sais même pas si tu peux, je sais même pas si je peux croire à ça. Je veux que tu saches ce matin que tu peux venir à lui avec tes doutes. Tu as des raisons d'avoir des doutes et on demande à personne de laisser son cerveau à la porte et d'arrêter de réfléchir ou d'arrêter de penser. Mais viens à lui, même avec ta faiblesse, même avec tes doutes. Viens à lui tel que tu es et laisse-le intervenir dans ta vie. Il a compassion même de nous qui venons avec des doutes. C'est son message. C'est le moment du Dieu de combat. Et c'est la motivation, la manifestation, le moment, le message, et juste terminer, le moment du Dieu de compassion. Tout ça, c'est pour... Le Seigneur vivait. Jésus vient, il y a des foules, mais il vit des moments, une personne à la fois. La Bible nous dit dans l'évangile de Marc, et c'est mon dernier texte ce matin, l'évangile de, dernier exemple, il y en a tellement d'autres, mais juste dans l'évangile de Marc, au 3e chapitre, nous lisons que Jésus est entré dans le temple, est entré dans la synagogue. Et lorsque Jésus entra de nouveau dans la synagogue, dans le temple, et lorsque lorsque l'Église chrétienne va permettre et permet à Jésus d'entrer de nouveau dans sa maison et d'entrer dans des cœurs, les choses vont changer. Je sais que nos attentes, je sais que pour la majorité des Québécois, là, aller à l'Église, les attentes n'étaient pas hautes. La majorité des Québécois maintenant, là, aller à l'Église, on va. Lorsque vous dites à quelqu'un au travail, tu veux-tu venir à mon Église? Les attentes sont pas hautes. Peut-être en 30 secondes, un de ceux qui l'explique le mieux à quel point les attentes sont pas hautes lorsqu'on dit à quelqu'un, viens à l'Église, c'est Martin Matt. On l'écoute 30 secondes, Martin Matt.
Qui ici dans la salle va à la messe tous les dimanches en famille? Y'en a une! C'est très rare! Vous êtes où? Vous allez à la messe tous les dimanches? Oh, deux! Trois! Vous êtes dans la même église, hein, sûrement parce qu'ils ferment beaucoup, hein? Non, mais c'est vrai que c'est. Je te demande ça, là. C'est un, zéro. Moi, là, quand j'étais jeune, tous les dimanches à la messe avec mes parents, tout le temps, tout le temps. Puis comme beaucoup de Québécois, hein, au fil des années, j'y allais de moins en moins. C'est vrai, on y allait à Noël. Les dernières années, j'habitais chez mes parents, j'y allais à Noël à Pâques quand quelqu'un de ma famille mourait. Et quand j'étais vraiment chanceux, là, il mourait à Pâques, là. Maintenant, on a même arrêté d'y aller à Pâques. Je sais pas pourquoi. C'était peut-être parce que le discours du monsieur en robe nous bouleversait trop, tellement qu'il était avant-gardiste et adapté à la réalité.
Mm-hmm. Ouais, on s'attend pas à grand-chose, on va à l'Église. Mais lorsque l'Église chrétienne permet à Jésus de faire son entrée, d'être là, Jésus entra à nouveau dans la synagogue. Et que lorsque tu lui permets d'entrer dans ta vie, dans ton cœur, tout peut changer. La Bible nous dit qu'il y avait un homme qui était là, qui avait une main sèche. Verset 3 de l'Évangile de Marc, au troisième chapitre. Et il dit, il y avait là un homme qui avait la main sèche, et Jésus lui dit, lève-toi là au milieu. Et un peu plus loin, au verset 5, il dit à cet homme, donne-moi ta main. Donne-moi ce qui est sèche. Et le mot grec ici, c'est quelque chose qui était éteint. Sa main était morte, sa main était sèche, elle était sans vie. Il dit à l'homme, étends ta main. Et il l'étendit, et sa main fut guérie. Cet homme-là n'avait pas un cancer, il n'était pas, c'était pas un cancéreux, c'était pas quelqu'un qui était mourant, c'est pas quelqu'un qui était avec quelque chose de spectaculaire. En fait, il y avait une partie de lui qui était comme morte, qui était sèche. C'est quelque chose avec lequel il avait pu probablement s'habituer, juste je m'habitue à vivre avec, je vais tolérer, c'est comme ça maintenant. J'avais d'autres aspirations pour moi-même, je pensais à d'autres choses, mais je pensais être tellement plus, mais ça va être ça ma vie maintenant. C'est quelque chose que j'ai appris à vivre avec, j'ai appris à cacher. Peut-être que juste en portant sa manche juste un petit peu plus loin, il peut être assis à côté de vous ce matin, tu ne sauras pas c'est quoi. Tu ne le verras pas, c'est quelque chose que lui seul porte. C'est une peine, c'est une déception, c'est une blessure, c'est quelque chose qui est mort. Il y a une foi qui est morte, il y a une confiance qui est morte, il y a une joie qui est morte, il y a une espérance pour le futur, il y a une capacité d'aimer, il y a une capacité de faire confiance. C'est quelque chose qui est mort en moi, mais c'est comme ça que ma vie va être. C'est juste ça que ma vie va être et je suis assis à côté de toi. Et Jésus n'a aucune, jamais, il n'y a rien dans le cœur de Dieu qui est pour exposer ou embarrasser quelqu'un. Mais il veut dire à chacun ici que ce n'est jamais, le Dieu de compassion n'est jamais le Dieu juste des foules ou des pèlerinages de masse. Il est le Dieu d'une personne, de toi et de moi. Et il dit, lève-toi et juste donne-moi. Donne-moi ce qui était mort en toi. Donne-moi ce que tu t'es habitué à vivre avec. Donne-moi ce qui fait encore mal, mais que tu crois que c'est comme ça que le reste de ta vie va se passer. Donne-moi ce qui est sans vie et laisse-moi, dans ma compassion, prendre ce qui est sans vie et lui redonner. Et redonner vie, et redonner force, et redonner espoir, et redonner par sa grâce, par son pardon. Lorsque quelqu'un, un être humain, permet à Jésus à nouveau d'entrer et que tu lui remettrais ce qui est mort en toi, tu peux vivre ce matin un moment qui change tout. Dans la Bible, ce n'est pas des bébés qui étaient baptisés, c'est des adultes qui venaient être baptisés en témoignage du moment qui était devenu une vie nouvelle que Dieu, que Jésus avait préparé pour eux. Alors, plusieurs fois par an, on a des centaines de personnes ici, adultes, qui viennent témoigner à leur baptême de voici maintenant le moment que j'ai vécu avec le Dieu que je ne connaissais pas. Nous terminons ce message ce matin avec Catherine qui vous raconte pendant juste un moment ce qui était mort en elle, ce qui était sans vie, ce qui était dangereux, ce qui était, et qu'elle a simplement offert, remis au Seigneur Jésus. Et comment le moment est devenu une transformation qui a tout changé. On écoute Catherine.
mon histoire. Dans le fond, moi, j'ai beaucoup vécu de problématiques avant. J'étais dépressive, j'ai fait énormément de tentatives de suicide, une que j'ai quasiment réussi. Ensuite, j'ai eu énormément de l'abus physique, psychologique, dans ma famille. Et qu'est-ce qui a fait en sorte que je sois arrivée à Dieu? Dans le fond, moi, je suis une personne qui, à la base, était athée. J'ai vécu dans une famille très, très, très athée. Au début, nous étions catholiques. Mes parents ils ont décidé, puis moi, d'être athée. Dans le fond, on ne croyait plus en Dieu. Pour plusieurs situations, la maladie, des pertes de personnes très chères, on ne comprenait pas pourquoi ces personnes-là étaient enlevées à notre vie, malgré qu'il y avait un Dieu qui existait. On ne comprenait pas ce genre d'idéologie. Dans le fond, moi, qu'est-ce qui a emmené vers Dieu, c'est qu'un jour, j'ai tombé. Dans le fond, j'ai fait une tentative de suicide. Je suis toujours vivante. Puis par un miracle, sincèrement, j'ai rencontré un homme qui, dans le fond, à l'école que je fréquentais, qui m'a dit « Tu devrais venir à l'église. » Puis moi, l'église, j'étais comme « Ah, non, je ne viendrai pas. C'est une secte, voyons donc. Ça. Moi, je ne peux pas rentrer là. » Il m'a dit « Assez, tu vas voir si tu aimes ça ou si tu n'aimes pas ça, ben c'est pas plus grave que ça. » Je fais « OK. » Première fois que je suis allée, j'ai fait « OK. » Le message que la personne a prêché, j'ai fait « Ça vient me rejoindre. » C'est venu vraiment me chercher. Je vais vous avouer que je pleurais. Puis après, j'ai jamais arrêté de vouloir aller à l'église et écouter les prêches. Dans le fond, moi, je suis une personne que dans la vie, je me voyais pas. Je me voyais pas vivre jusqu'à 60 ans. Ma vie, elle arrêtait à 20 ans. Puis ça a tout le temps été comme ça. Depuis que je suis avec Dieu, dans le fond, je me vois vraiment plus loin que 20 ans. dans le fond, moi, j'ai vraiment été appelée par Dieu qu'avec mon cheminement, je puisse faire vraiment une différence dans la vie de plein de personnes. Avec, dans le fond, qu'est-ce que j'ai vécu dans mon passé, mais je fais de la phobie sociale, que maintenant, j'essaie de m'exposer le plus possible pour justement que ça soit comme plus facile pour moi, malgré qu'aujourd'hui c'est très difficile, mais que je le fais parce que je sais que ce témoignage-là peut-être va affecter certaines personnes qui vont vouloir suivre Dieu par la suite. Puis maintenant, je travaille à la commission scolaire, puis je veux justement montrer aux jeunes qu'on peut tous faire dans la vie, puis malgré qu'on ait une étiquette de dépressive, tentative de suicide, suicidaire, que malgré tout, en suivant Dieu, sincèrement, c'est la plus belle chose que j'ai pu faire de ma vie parce que je me suis jamais sentie autant heureuse maintenant. C'est dur à croire, mais sincèrement, genre, je vois mon passé, puis si j'avais pas suivi Dieu, je pense pas que je serais parmi vous en ce moment.
On peut applaudir ensemble ce que le Dieu de compassion rend possible, le Dieu que vous ne connaissez pas. Je vous remercie pour l'attention extraordinaire. On arrive à la dernière minute ce matin. Je veux juste qu'on prenne un moment de recueillement avant que le tourbillon de la vie nous reprenne. On a congé demain la majorité. Est-ce qu'on peut prendre juste quelques minutes? Est-ce que je peux vous demander une faveur de juste pencher la tête, baisser les yeux un instant et que tous ceux qui connaissent le Seigneur puissent prier en ce moment. Priez avec moi, avec nous. Jésus a demandé à cet homme, « Viens et lève-toi là où tu es. Donne-moi ce qui est mort. Donne-moi ce qui a besoin d'être guéri. » Ce n'est pas pour l'embarrasser, ce n'est pas... Mais la Bible appelle chaque personne à prendre une décision, à ouvrir sa vie, à ouvrir son cœur, à reconnaître son besoin de Dieu. Et ce matin, j'ai à cœur de faire juste cet appel de la même façon parce qu'il est le même, il n'a pas changé. Son action est la même et son désir est le même. Sa compassion pour toi, tout ce que tu as traversé, tout ce que tu as vécu, tout ce que personne ne sait, mais que toi, tu sais, elle est la même. Alors, ce matin, si vous êtes ici et que vous dites ce message-là, pasteur, là, je peux m'identifier à ça. Le chemin, il est long. Les forces me manquent. Vous êtes arrivé ici, vous dites cette expression-là, le chemin est difficile, les forces me manquent. Dans ma famille, dans mon mariage, dans mon couple, dans ma vie, dans mon cœur, dans mes émotions, les forces me manquent face à quelque chose que je traverse.
Si vous êtes ici ce matin et vous dites simplement, les forces me manquent, j'ai besoin. Je vais ouvrir ma vie à Dieu. Je vais laisser Dieu venir. Peut-être que vous êtes tout nouveau où ça fait. Vous êtes croyant, vous connaissez le Seigneur, ça fait 25 ans que vous êtes là. Ça fait des années que vous êtes là. Vous avez connu, vous êtes éloigné, vous êtes revenu. Vous êtes juste de passage. Mais les forces me manquent, le chemin est long. La parole de Dieu nous dit, il donne force à celui qui est faible. Même les plus jeunes se fatiguent, mais ceux qui se confient en l'Éternel vont trouver des forces, vont renouveler des forces. Alors tout simplement, si vous êtes ici ce matin, des dizaines se sont levés ce matin à la première réunion. Si vous êtes ici ce matin et vous dites, le chemin est long, ce message est pour moi, j'ai besoin de force surnaturelle. Je vais vous demander, là où vous êtes, de vous lever à votre place, comme cet homme il y a 2000 ans. Lève-toi et donne-moi. Des gens partout en ce moment qui répondent. J'ai été blessé, j'ai été victime de l'abus religieux. Je sais de quoi vous parlez. De génération en génération, dans une église, qu'elle soit catholique ou qu'elle soit évangélique, quelle qu'elle soit, j'ai été meurtri, j'ai été blessé, j'ai été déçu. J'ai besoin d'une guérison. J'ai besoin d'une guérison dans mon cœur pour reprendre confiance. Vous avez été marqué et blessé par le religieux. Vous avez besoin de cette guérison dans votre cœur. Je vous demande de vous lever là où vous êtes et demeurer debout. Ceux qui se lèvent, juste demeurer debout. Des gens partout. J'ai été blessé. Il y a une guérison pour toi ce matin. J'avais à cœur de demander, vous êtes ici ce matin, vous dites, j'ai été victime de discrimination. De discrimination systémique à cause de la couleur de ma peau, à cause de ma culture, à cause que je suis différent. Ou j'ai été victime de traitement à cause d'une différence, de que je dérange ou que j'étais simplement différente et ça m'a blessé profondément. Et ce matin, je veux lui amener mon cœur. Il y a de la colère, il y a de l'amertume, il y a de la méfiance en mon cœur. J'ai été victime de discrimination, qu'elle soit raciale, culturelle ou autre. Mais ce matin, je veux le remettre à Dieu. Je veux lui donner ma main sèche. Je veux qu'il vienne faire une œuvre dans mon cœur. Je vous demande de vous lever avec courage là où vous êtes. Les gens partout, j'ai déjà été victime de discrimination. Et avec toute l'honnêteté, la simplicité de ce moment, et aucun jugement ici, seulement de la prière. Les bras tendus de Jésus envers toi. Vous êtes ici ce matin et vous dites, je suis aux prises avec une dépendance. Il y a quelque chose qui me contrôle. J'ai perdu le contrôle. Et je n'ai pas la capacité par mes propres forces. Ou il y a quelqu'un dans ta vie, c'est ton fils, c'est ta fille, c'est quelqu'un près de toi, dans ta famille, quelqu'un que tu connais, un ami. Il y a des gens qui sont venus à Jésus pour eux-mêmes et d'autres sont venus pour quelqu'un d'autre. Vous êtes ici, vous dites, il y a une dépendance, il y a quelque chose qui me contrôle, j'ai besoin de lui, j'ai besoin de Jésus. Pas le Dieu tel que je le conçois, de Jésus. Le Christ ressuscité, vivant, qui donne, qui libère encore des êtres humains aujourd'hui. Si vous êtes ici et vous dites, je viens pour moi-même, je veux le reconnaître, je veux me lever pour le reconnaître, ou je viens pour quelqu'un près de moi qui a une dépendance, qui a besoin d'être libéré, je vous demande de vous lever là où vous êtes, à votre place, partout. Vous vous levez pour vous-même ou pour quelqu'un. Et si vous êtes ici ce matin et vous dites, il y a quelque chose qui était mort en moi, j'ai une main sèche, il y a une joie qui était morte, il y a une confiance en l'avenir, il y a mon appel devant Dieu, il y a une capacité d'aimer. Ce que j'ai traversé, j'en ressors avec quelque chose qui est éteint. Il y a quelque chose qui est éteint en moi. Mais ce matin, je m'en viens lui offrir, je m'en viens tendre ma main sèche vers lui et je crois qu'il est la résurrection et la vie. Il le fait encore aujourd'hui. Vous avez quelque chose qui a besoin d'être ressuscité en vous. Est-ce que vous pouvez vous lever là où vous êtes à votre place et juste le remettre à Dieu? Je demande maintenant à toute l'Église de se lever ensemble. Est-ce qu'on peut se lever tout le monde ensemble? Et ce matin, si vous êtes à la fin de la réunion, si vous êtes là pour les premières fois, vous êtes venu à Dieu, vous revenez à lui, ou simplement j'ai répondu à un de ses appels, je voudrais en parler avec quelqu'un lorsque la réunion va se terminer, en sortant à votre gauche, tout l'espace bienvenu, là, les gens sont là pour être avec vous. Mais en ce moment, Dieu est là. En ce moment, sa main est là. Seigneur, je te prie maintenant que tu viennes redonner la vie à ceux qui étaient morts. Je te prie maintenant, Seigneur, pour ceux qui ont été victimes. Ceux qui ont été victimes de l'Église, ceux qui ont été victimes du religieux, ceux qui ont été déchirés, qui ont perdu confiance, viens maintenant, Seigneur, apaiser les cœurs, viens maintenant guérir. Je prie pour ceux qui ont des dépendances eux-mêmes, captifs ce matin, j'ai perdu le contrôle, ou il y a quelqu'un dans ma vie qui a perdu le contrôle et je m'en viens me tenir pour lui, je m'en viens me tenir pour elle. Nous le déclarons ce matin, tu es le même, tu es le Dieu de compassion. Et nous te remettons nos vies entre tes mains. Et nous te demandons, aide-nous, mon Dieu. Aide-nous à être ton peuple de compassion. Être ton peuple aux bras ouverts. Dans le nom de Jésus. Et toute l'Église dit un grand Amen ce matin. Et est-ce qu'on peut applaudir cette vision, cet appel, ce Dieu de compassion?